divers aspects de la pensée contemporaine. Une émission proposée et présentée par Fabrice Millon et par Alexis Lacroix. Bonjour chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue à tous en ce dimanche matin. Bonjour cher Fabrice Millon.
Bonjour Alexis.
On est très heureux de vous retrouver pour une nouvelle séance ensemble et on a le bonheur, le privilège aussi, de recevoir un invité de marque qui est le philosophe Charles Coutel, professeur émérite à l'université de l'Artois. Il nous arrive avec deux livres passionnants qui vont être la trame de notre conversation, Fabrice. L'émancipation maçonnique à la recherche de la vérité avec une préface de Philippe Guglielmi et la franc-maçonnerie, une pédagogie de la grandeur, préfacée par le grand maître du Grand Orient de France, Guillaume Trichard. Alors, vous l'avez compris, ou en tout cas je l'explicite, le fil rouge de notre conversation va porter notamment, bien sûr, sur la question de l'émancipation, mais nous allons aussi évoquer la question de la résistance pour grandir ensemble, Charles Coutel, sur la base de vos deux livres, la franc-maçonnerie, une pédagogie de la grandeur, l'émancipation maçonnique à la recherche de la vérité. Alors commençons peut-être par des choses simples. L'émancipation appartient à la pensée rationaliste depuis le siècle des Lumières. Quels sont les sens que revêt ce concept si précieux d'émancipation dans la tradition maçonnique qui vous est chère, Charles Coutel, et dont vous êtes aujourd'hui un des principaux exégètes français.
Merci, cher Alexis, chers amis, chers amis. Je vous remercie pour cette invitation qui m'honore. Merci aussi de me donner l'occasion de saluer les grands maîtres, mais aussi Cécile Révauger, qui m'ont accompagné et préfacé dans mes différents travaux. Ce fut d'abord Patrick Kessel dans un ouvrage qui est le point de départ de ma prise de conscience, pour répondre à votre question, pour une république laïque et sociale. Ensuite, et grâce à l'amical soutien de Philippe Guglielmi et les lumières de Cécile Révauger, ce fut un premier livre, effectivement, l'émancipation maçonnique. Et là, je vais répondre bien sûr à votre question. Et puis, dans le prolongement de cette réflexion sur l'émancipation, une réflexion sur la grandeur. Voilà, nous n'arrêtons pas, et je réponds à votre question d'invoquer la grandeur et la vénération, hein, dans Vénérable Maître. Il y a effectivement l'idée de vénération, qui est l'horizon maçonnique de l'idée d'émancipation. Alors oui, je mets les pieds dans le plat, nous n'arrêtons pas de nous tromper sur l'émancipation.
Ah oui. Alors, quel est le sens qu'il faudrait rejeter, dépasser, abandonner, auquel il faudrait renoncer, et quel est le sens vers lequel il faudrait se diriger aujourd'hui pour prendre l'émancipation pour ce qu'elle est réellement, Charles Coutel?
Pour comprendre les dangers qui nous menacent et pour ne pas se contenter d'un rapport incantatoire à l'émancipation, il faut écouter d'abord ce que nous dit le grand maître du Grand Orient, quand il commence par un appel à l'humilité, dans son excellente préface, mais aussi son beau discours du convent de Lille, tout simplement avoir l'humilité de dire qu'il faut commencer par réparer. Celui qui répare est attentif aux erreurs du passé et aux projet vers l'avenir.
Alors je vous interromps, Charles Coutel, c'est un concept important, celui de réparation. On peut dire d'ailleurs que le grand maître du Grand Orient de France, Guillaume Trichard, en a fait un des fils rouges de son action à la tête de l'obédience. Vous y reconnaissez dans le concept
de
réparation ?
Je me reconnais, d'autant plus que lors d'échanges proprement initiatiques, je me suis permis de dire aussi que on répare pour construire, mais aussi pour réinstituer. Et je trouve très intéressant cette posture qui est à la fois courageuse et humble de la réparation. Quand on met réparation au pluriel, ça devient c'est la conséquence des guerres, les réparations après une guerre. D'où l'idée aussi que l'émancipation n'a d'intérêt que si elle nous ouvre un espace de résistance. On y reviendra. Alors oui, je réponds directement, l'émancipation est une notion déconcertante parce qu'on commence par se tromper sur le sens qu'elle a. Et là, c'est une belle formule de Condorcet que je pense qui vous a plu, cher Alexis, et que vous allez nous lire.
Les hommes ont tellement pris l'habitude d'obéir à d'autres hommes que la liberté est pour la plupart d'entre eux le droit de n'être soumis qu'à des maîtres choisis par eux. Alors, on va dire que c'est un débarquage deux siècles après, par Condorcet, de cette pensée célèbre dans l'humanisme français sur la servitude volontaire, selon le titre de La Boétie. On peut dire ça comme ça ?
On dit comme ça et on a raison, mais je pense que le vrai penseur de cette contradiction, il s'appelle La Fontaine. Et là, ça s'appelle Le Loup et le Chien. Et le loup, qui donc fréquente et hante les forêts, s'aperçoit que le chien, qui a sa pitance tous les jours, est drôlement marqué par un collier de servitude. Et là, ce qui est intéressant dans la maçonnerie, c'est qu'on se révolte contre la rhétorique de soumission orléaniste de tous les chiens.
Alors, on va justement entrer dans les détails. Est-ce qu'on peut dire que lorsque l'on se sépare de ces métaux, au sens propre comme au sens figuré, on figure en quelque sorte cet affranchissement de toutes les servitudes, de tous les jougs qui nous retiennent dans la vie profane ?
Oui, à condition de prendre au sérieux les multiples avertissements que nous lancent les rituels maçonniques. Commencez par le silence, parce qu'en général, quand on est soumis, on s'aveugle sur soi-même en bavardant. Ensuite, quand on s'engage, je crois, dans notre problématique humaniste, quand on fait un serment, on s'y tient. Et c'est ce qui a lancé le second ouvrage de cette année, on s'aperçoit que finalement, il est absolument essentiel de se tenir à cet engagement de chaque vénérable maître qui s'engage dans ce mandat. Je cite, « Je promets, dit tout candidat vénérable maître, je promets de travailler à la grandeur de ma loge et à la grandeur de la franc-maçonnerie. »
Alors absolument, Guillaume Trichard, le grand maître du Grand Orient de France, qui signe la préface de ce très beau livre, Charles Coutel, autour duquel nous nous réunissons avec Fabrice Millon, « La franc-maçonnerie, une pédagogie de la grandeur », le précise, grâce à la maçonnerie, on passerait en quelque sorte à un degré supérieur, non seulement de conscience, mais aussi tout simplement d'émancipation. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, dans notre société, en grande partie déboussolée pour aller vite, il n'y a plus d'autre instance véritablement émancipatrice que les loges maçonniques.
Je le crois, car un certain nombre de nuages toxiques qui nous viennent des Tchernobyl de la pensée unique consistent à diffuser ce que les jeunes appellent des fake news et à oublier que ce sur quoi nous allons insister peut-être, le triangle de la grandeur, je dis triangle parce que nous sommes ici pour cela. Pourquoi triangle ? Parce que tout simplement, lorsque dans le monde profane, deux termes, deux écoles, deux personnes s'opposent, l'espérance maçonnique, ça consiste à dire il existe toujours une solution pour s'en sortir par le haut. Et c'est le sens que je donne à grandeur. Grandeur, ça n'est pas se monter du col, c'est tirer les choses vers le haut pour élever le débat. C'est le sens de cette belle formule de Guy Arcizet que je salue. La franc-maçonnerie ne s'enseigne pas. Elle se vit dans la pratique d'une émancipation qui est un apprentissage de la liberté. Ce vécu se transforme sans cesse au fil du parcours maçonnique.
Charles Coutel, c'est absolument passionnant. Une question avant qu'on vous interroge plus avant sur l'admiration et la vénération. C'est mon camarade et ami, et néanmoins ami, Fabrice, qui va s'y coller. Mais encore une question. Que doit à la tradition religieuse, on va dire juive dans un premier temps, et chrétienne, donc judéo-chrétienne, ce concept, en quelque sorte, d'émancipation dans l'espérance qui est au cœur aujourd'hui de l'initiation maçonnique?
Je pense que lorsque un grand penseur juif, très influencé par la tradition laïque et républicaine, qui travaille à la diffusion de la pensée juive, Edmond Flegg, lorsque en 1949, pas loin de 45, dit « nous de l'espérance », il est maçon sans tablier, puisque le « nous » qui réunit ce qui est épars en maçonnerie est un nous paradoxal, puisque c'est un nous qui n'éteint pas la singularité, ce que dit Arcizet, mais qui promeut une singularité artiste, artiste de soi, avec les autres. Moi, j'appelle cela la grandeur.
Alors, nous sommes dans une émission où la singularité artiste de soi a droit de citer. Preuve, d'ailleurs, par votre invitation, cher Charles Coutel, vous êtes professeur émérite de philosophie et évidemment très versé dans l'interprétation, dans l'herméneutique philosophique de la maçonnerie, de l'initiation maçonnique. Et nous avons des questions très précises à vous poser. Fabrice Millon vous les pose concernant la vénération maçonnique.
Oui, Charles Coutel, j'ai une question. Quand vous mentionnez le triangle de la grandeur, me vient une question. Qu'est-ce que la vénération maçonnique ?
Merci pour cette bonne question. Et vous savez, comme c'est difficile, on dit dans le monde politique, vous faites bien de me la poser.
Ce qui généralement permet aux responsables publics de se donner un laps de temps de réflexion à
vous. Voilà, c'est ce qui vient de se passer. Et je dirais, j'allais me la poser. Alors, le mot vénération ne peut pas être séparé de l'usage omniprésent du mot vénérable dans la maçonnerie. D'origine cléricale religieuse, ce terme s'intègre pour moi dans ce que j'appelle, faute de mieux, le triangle de la grandeur, dont la pointe consisterait à réfléchir sur l'idée de transmission. La transmission présuppose un acte à la fois d'humilité et de courage, comme on essaie de le développer dans le hors-série d'humanisme, de la revue Humanisme des francs-maçons du Grand Orient, qui s'appelle « Humanisme, transmettre l'empreinte des francs-maçons ». Alexis, je te l'offrirai, si tu me poses encore deux belles questions. Le triangle de la grandeur commence par le fait de vouloir transmettre, d'avoir des ancêtres. Et là, je réponds à votre question. Ce qui caractérise une religion, c'est d'accepter d'avoir des ancêtres. Sauf que les salafistes se trompent sur les ancêtres, en croyant qu'il faut les idolâtrer, alors qu'en fait, il faut les respecter et les connaître. Le premier aspect de ce triangle, je réponds à votre question, en appelle un second qui est un temps plus esthétique, admiratif. La franc-maçonnerie apparaît à un moment où il redevient possible, recommandable d'admirer, que l'on songe aux ruines d'Hubert Robert, et enfin la vénération.
Alors, je vénère. Vous m'autorisez une question à ce stade ?
Oui.
La vénération, vous l'avez bien distinguée en réponse à Fabrice de l'admiration. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, dans un monde de plus en plus désaffilié, coupé de ses origines ou de la continuité culturelle, disons pour parler comme Hannah Arendt, justement, ça fait de la maçonnerie une instance de rappel contre cette espèce de rupture de relation avec les origines ?
Bien. Un grand penseur qui en a autour d'Hannah Arendt, pour faire vite, concis, considère que nous avons un problème avec l'ancestralité parce qu'en fait, nous n'avons pas assez tenu compte de l'avertissement de Tocqueville qui consiste à dire « Il est dur d'être en démocratie parce que chaque génération doit repenser la grandeur à nouveau frais ». Alors, la vénération, très bien travaillée par un certain nombre d'auteurs spécialistes de philosophie morale, cela consiste à dire qu'après t'avoir admiré, je vais peut-être te vénérer si je m'aperçois que ta vie est en conformité avec ce que tu dis.
Alors restez bien près du micro, Charles Coutel. Vous êtes l'auteur de La franc-maçonnerie, une pédagogie de la grandeur, L'émancipation maçonnique à la recherche de la vérité. Nous sommes donc une émission initiatique, mais nous sommes aussi une émission ouverte sur la cité. Est-ce que vous avez l'impression que ces distinctions fondamentales ont encore cours dans l'espace public français ?
Oui, à condition que on ne fasse pas de l'immaturité un art de vivre. L'immaturité consiste à dire qu'on peut traverser la vie en trottinette. Je pense que les Français, les Républicains, les humanistes valent mieux que cela.
Le grand Philippe Muret, en son temps, avait beaucoup écrit là-dessus.
Absolument.
Sur la festivocratie généralisée.
Oui.
On vous remercie chaleureusement. L'émancipation maçonnique à la recherche de la vérité, ainsi que la franc-maçonnerie, une pédagogie de la grandeur, avec une préface, une très belle préface, du grand maître du Grand Orient, Guillaume Trichard. Et je cède la parole à notre ami Fabrice pour les actualités de l'obédience. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ce mois-ci, elles sont très nombreuses en ce mois de mars.
L'actualité pour le mois de mars est très dense, mais Pour commencer, on va s'intéresser au musée, le musée de la franc-maçonnerie qui est situé évidemment à l'hôtel Cadet. Depuis le 26 janvier, nous accueillons l'exposition La Révolution, Femme, Vie, Liberté, des dessins de presse de deux artistes, Kianoush Ramezani et Mana Nayastani. Vous l'avez compris, Alexis, l'exposition est tournée vers l'Iran, une exposition à entendre comme un soutien au peuple iranien. De la même manière, toujours sur l'Iran, pour le mois de mars, le 19 mars, une soirée Iran, une soirée à la fois singulière, pour ne pas dire atypique, dans la mesure où nous allons accueillir des artistes sur scène et dans le temple Groussier, ce qui est tout à fait inhabituel. Une dernière date pour le mois de mars, le 21 mars, les chantiers de la République, des conférences publiques donc, autour d'un thème qui est l'eau, un bien commun.
Un bien commun, et c'est vrai que c'est au cœur des grandes problématiques de développement durable et d'écologie. Qu'est-ce qu'on peut en dire philosophiquement en une minute, je sais, de cette question de l'eau, justement, Charles Coutel? Quand on réfléchit comme vous le faites, dans l'horizon de la fraternité républicaine, est-ce qu'on va, dans les décennies qui viennent, devoir gérer, en Europe occidentale, en France notamment, des problèmes drastiques d'eau et de ressources en eau?
Oui, je pense que c'est effectivement... l'eau fait partie des biens communs. J'ai un problème avec le bien commun qui est le cœur de la doctrine sociale de l'Église. En revanche, bien public est un terme républicain humaniste. Donc les biens communs, le salut de l'humanité dépend, ça va peut-être vous étonner, de l'énergie intellectuelle que nous allons développer pour savoir comment nous allons ôter le sel de l'eau de mer. Parce que si nous parvenons à désaliniser l'eau des océans, alors l'humanité sera sauvée.
Il nous reste encore 45 secondes, je parle sous le contrôle de notre excellent réalisateur Luc-Jean Reynaud. Est-ce qu'il faut, pour retrouver les voies de l'émancipation, reconstruire aussi très activement, très volontaristement, en quelque sorte, la République sociale et laïque que nous avons en héritage?
Oui, à condition, par l'école, par les services publics enfin restaurés, de former des républicains qui, eux, seront un jour capables de développer cette posture de résistance et de réinstitution, comme le fait le grand maître depuis le début de son mandat. Et qu'on me permette, puisqu'il reste 15 secondes, de solenniser un tout petit peu nos échanges. Que l'amour fraternel unisse tous les anneaux de cette chaîne formée librement par nous. Comprenons la grandeur et la beauté de ce symbole. Inspirons-nous de son sens profond par elle. Nous sommes attachés à la lignée de nos ancêtres, nos maîtres vénérés, qui la formaient hier. Mon ouvrage, préfacé donc par le grand maître, ne fait que rassembler ce qui était part.
Charles Coutel, on vous remercie chaleureusement d'avoir fait un tour par France Culture. On vous remercie aussi beaucoup, Fabrice Millon. On se retrouve évidemment le mois prochain dans divers aspects de la pensée contemporaine. C'était divers aspects de la pensée contemporaine, aujourd'hui le Grand Orient de France. À la technique, Jean-Guilain Meige. À la réalisation, Luc-Jean Reynaud. Et à la coordination éditoriale, l'indispensable, Claire Poincignon. Bonne journée à tous.